Contexte, de Dorothy Allison. Un été, il y a presque 10 ans, avec ma copine, nous avons rendu visite à ma tante Dot, ainsi qu'au reste de la famille de ma mère, à Greenville. Nous avons pris notre temps pour y aller, passant une journée à Washington et une autre à Durham. J'ai même songé faire un détour par les Smoky Mountains, jusqu'à ce que je comprenne que la raison pour laquelle j'y pensais était la peur. Ce n'était pas ma famille que je craignais. C'était ma copine. J'avais peur d'amener ma copine à la maison à cause de l'expression que je pourrais lire sur son visage une fois qu'elle aurait passé un peu de temps avec ma tante, rencontré plusieurs de mes oncles et essayé de parler à l'une ou l'autre de mes cousines. Je craignais la distance, la peur ou le mépris qui, je l'imaginais, pouvait s'immiscer entre nous. J'avais peur qu'elle pose sur moi un regard nouveau, un regard insupportable, celui de quelqu'un qui se serait soudain rendu compte à quel point nous étions différentes. La froideur de ma tante, la méfiance de mes cousins ou le dédain de mes oncles me faisaient moins peur. Et j'ai eu raison de m'inquiéter. Ma copine m'a en effet regardée différemment. Pourtant, ce qu'elle redoutait le plus que sa propre peur ou le malaise qui pourrait s'installer entre nous, c'était que je puisse m'éloigner d'elle. Ce que j'ai lu sur son visage après notre premier jour en Caroline du Sud n'était rien de ce que j'avais imaginé. Ses traits étaient marqués par une sorte de crainte ténue, de confusion, de doute et de honte. Tout ce qu'elle a pu me dire est qu'elle n'avait pas été préparée. Ma tante Dot lui a souhaité la bienvenue, lui a servi du thé glacé dans un grand verre et l'a installée à la meilleure place à la table de la cuisine, celle près de la fenêtre, là où la fumée de cigarette de mon oncle ne la gênerait pas. Mais ma copine n'a presque pas parlé. « C'est une sorte de dialecte, n'est-ce pas ? » m'a-t-elle demandé cette nuit-là dans la chambre du motel. « Je n'ai pas compris un quart de ce qu'a dit ta tante. » Je l'ai regardée. L'accent de ma tante Dot était prononcé, mais je ne l'avais jamais considéré comme un dialecte. C'est juste qu'elle n'a jamais quitté le comté de Greenville. Elle avait une télévision, mais elle était pour les enfants, dans le living room. Ma tante passait sa vie à cette table de cuisine. Ma copine s'est appuyée sur mon épaule, la joue posée contre ma clavicule. Je pensais savoir à quoi m'attendre, ta famille, Greenville. Tu m'avais raconté tellement d'anecdotes, mais les mots. Elle a levé la paume de sa main en l'air et tendu les doigts, comme si elle cherchait à exprimer une idée. Je ne sais pas, je pensais comprendre ce que tu voulais dire quand tu disais classe ouvrière, mais il me manquait un contexte. J'étais étendue, immobile. Bien que l'air conditionné du motel marchât à fond, je pouvais sentir la touffeur du dehors. Elle nous parvenait même à travers les portes et les fenêtres. Une odeur de terre marécageuse qui me ramenait à mes 10 ans, quand je descendais avec mes sœurs pour dormir à même le sol, en espérant qu'il ferait un peu plus frais. Nous n'avons jamais eu l'air conditionné. Nous n'avons jamais séjourné dans un motel. Nous n'avons jamais mangé dans un restaurant où ma mère ne travaillait pas. Le contexte. J'ai respiré l'odeur de métal humide du climatiseur et je me suis souvenue de Folly Beach. Lorsque j'avais environ 8 ans, mon beau-père nous y avait conduite par la route de Charleston. Et nous nous étions installés, tous les 5, dans la chambre qu'un de ses amis de travail avait mis à notre disposition. Ce n'était pas un motel. C'était une pension. Et la femme qui la dirigeait ne semblait pas très ravie que nous nous présentions pour une chambre que quelqu'un avait déjà payée pour nous. Je dormais dans un lit d'enfant pliant qui menaçait de s'effondrer. Mes sœurs dormaient ensemble dans le lit en face de celui de mes parents. Ma mère cuisinait sur un réchaud à 2 feux, parce que c'était moins cher que d'aller manger dehors. Et notre petite fête consistait en nourriture à emporter, du poisson frit dont mon beau-père jurait qu'il était mauvais, et des hamburgers qui venaient du même endroit. Nous étions impressionnés par la douche extérieure sous les escaliers, où nous devions rincer le sable que nous ramenions de la plage. Nous avions très envie de louer un de ces canoës, parasols et bicyclettes que l'on pouvait se procurer sur la plage. Mais mon beau-père soutenait que toutes ces choses étaient proposées à des tarifs de voleurs, et il enrageait contre les hommes qui essayaient de nous tenter avec. Cela nous importait peu. Nous étions comblés par le simple fait de passer de vraies vacances dans des lieux publics qui obligeaient mon beau-père à surveiller son caractère, et par la liberté de courir partout en maillot de bain et en tongs. Nous y avons passé une semaine. Par deux fois, mon beau-père nous a envoyés à la plage, pendant que ma mère et lui étaient restés dans la chambre. Nous en avons profité pour observer les faits et gestes des autres familles, pour écouter les pères faire des éloges de leurs fils et regarder les mères rougir de fierté en voyant comment les gens regardaient leurs filles. Nous avons écouté les accents et étudié les menus du pique-nique. Tout le monde était étrange et merveilleux, en vacances. Mon beau-père ne s'emporta qu'une seule fois durant ce voyage. Il était horrifié par les prix pratiqués dans les magasins de souvenirs et nous faisait garder nos mains dans nos poches. « Ces salauds de juifs me feront payer si vous cassez quelque chose, » jura-t-il. Ces paroles m'ont fait tressaillir, et j'ai réalisé que l'homme derrière le comptoir avait entendu. Je l'ai vu rougir violemment alors qu'il suivait du regard mon beau-père qui se dirigeait vers la porte. Puis j'ai vu son coup d'œil sur moi et mes sœurs, reflétant le même mépris que celui destiné à mon beau-père. Une chaleur est montée dans la nuque, et j'ai voulu m'excuser, lui dire que nous n'étions pas comme mon beau-père. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien lui dire devant mon beau-père. Et si je l'avais fait, pourquoi m'aurait-il cru ? Souviens-t'en, ai-je pensé. N'oublie jamais ce que tu as vu, entendu et ressenti. J'ai serré les dents et gardé la tête bien droite. J'ai regardé cet homme dans les yeux et prononcé sans un bruit « Je suis désolée ». Mais je ne sais pas s'il a compris. Quel contexte avait-il pour des gens comme nous ? Cette première nuit à Greenville, après que ma copine se fut endormie, je suis restée allongée, longtemps éveillée. Ma copine était une Yankee de bonne famille, qui avait passé les étés de son enfance sur les rivages du New Jersey. J'étais allée là-bas avec elle. J'avais marché avec elle sur les plages de son enfance, larges et plates, d'un gris très clair, si propre qu'elle m'intimidait. Après avoir vu où elle avait grandi et rencontré quelques membres de sa famille, je la comprenais mieux. Je voyais d'où venaient certaines de ses peurs et d'où venait sa fierté. Je me demandais ce qu'elle avait compris à mon sujet aujourd'hui. J'ai tourné la tête sur le côté pour la regarder dormir, ses lèvres légèrement appuyées contre ma peau. Ses cheveux étaient foncés et brillants, ses dents droites et blanches. Je me demandais ce qu'elle aurait pensé de Folly Beach, côte du New Jersey des pauvres, ou de nous, si elle avait pu nous y voir. Une vieille honte me submergea, puis je me résolus à la chasser. Le contexte, c'est si peu à partager, et c'est tellement vital.